Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. Eleanor Roosevelt.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
C'est entrée sans frapper, il est 12h04, nous avons Eve Jens, nous avons Marie-Agnès Baupin dans ce studio Gorian Delpature avec vous. Le mardi, on parle littérature étrangère et aujourd'hui un énorme morceau.
Oui, direction les USA avec le livre de la semaine, Le Couteau de Salman Rushdie. C'est le premier livre écrit par Salman Rushdie depuis son agression en août 2022. Ce n'est pas un roman, c'est le récit de son agression, de son séjour à l'hôpital. Et c'est un récit de vie aussi où Rushdie nous parle de son bonheur d'être en vie avec sa femme et ses fils face à celui qui a essayé de le tuer à coups de couteau, un livre important.
Ah, Le Couteau de Salman Rushdie. Nicolas Hermant, avec vous, il était une fois, certes, mais il était une fois qui ?
Robert Bloch, qui a assassiné Lovecraft et qui a aussi écrit le roman Psycho, qui a été adapté par Hitchcock au cinéma.
Ouais. Psycho, c'est fou ça, cette histoire, quand même, non ? C'était une des petites histoires, c'est une des petites grandes histoires de la littérature. Donc Robert Bloch, il était une fois, c'est dans quelques poignées de secondes. Et puis Caroline de Mulder est notre invitée aujourd'hui dans Entrée sans frapper. Je suis enchanté de la recevoir, autrice belge. Elle est notre invitée pour son nouveau roman, La Pouponnière d'Himmler. On va parler de ces fameux Lebensborn, patronné par Himmler, hein, c'est lui, hein, dès 1935, hein, qui lance les Lebensborn. Que se passait-il derrière les murs de ces maternités ? Eh bien, on en parle avec Caroline de Mulder dans quelques instants.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
Dites-nous tout, Nicolas Hermant, qui était Robert Bloch.
Oui, oui, j'avais envie de mettre un coup de projecteur sur un des plus grands auteurs de la littérature fantastique et d'horreur, donc Robert Bloch. Certains allèrent même jusqu'à dire qu'il était sûrement du niveau d'Edgar Allan Poe. Il était une fois Robert Bloch, assassin de Lovecraft, mais aussi auteur du roman Psycho, adapté au cinéma par Alfred Hitchcock. Alors Robert Bloch, il est né en 1917 à Chicago et il est mort en 1994 à Los Angeles. Depuis l'âge de 10 ans, il se nourrit des magazines pulp et plus particulièrement des histoires de Lovecraft. Alors Lovecraft considéré comme l'un des écrivains d'horreur les plus influents du XXe siècle. Il me faudrait une émission complète pour vous raconter son œuvre, hein, écrivain reconnu aujourd'hui mais mort dans la pauvreté. Il influença de nombreux auteurs en herbe, notamment Robert Bloch, qui préférait ses nouvelles aux livres d'école. Particulièrement emballé par la nouvelle de Lovecraft, Le Modèle de Pickman, hein, qui raconte l'histoire d'un peintre qui représente des monstres en train de dévorer des gens. Des peintures extrêmement réalistes qu'il peint d'après nature. Alors fasciné par ces récits, Robert Bloch entame à 15 ans une correspondance avec son maître.
Ah ouais, il lui demande d'abord où il pourrait trouver d'autres histoires qu'il aurait pu rater dans les magazines.
Et à sa grande surprise, Lovecraft les lui envoie, mais cerise sur le gâteau, ou désir profond d'avoir un nouveau disciple, il demande à Robert Bloch s'il écrit lui aussi des histoires et si cela lui plairait qu'il le conseille. Alors c'est plutôt sympathique de la part d'un écrivain qui n'était pas toujours considéré comme le plus aimant des hommes. Mmh. Et c'est pour le remercier de sa gentillesse que Robert Bloch saisit l'occasion pour imaginer le meurtre de Lovecraft. Mais comme le jeune Robert est un garçon bien éduqué, il demande l'autorisation à sa future victime. Celui-ci accepte et donc, en 1935, Robert assassine Lovecraft.
Oui, mais pas en vrai.
Mais non, dans une nouvelle, évidemment, pas dans la réalité. Alors, l'histoire d'un jeune étudiant qui veut écrire des nouvelles dans des magazines, ses textes étant refusés, il se lance sur la piste des savoirs oubliés dans des livres étranges et il entre en contact avec un rêveur mystique qui vit à Providence, comme Lovecraft. Ce mystique lui révèle l'existence de livres maudits. Le jeune étudiant découvre un grimoire écrit par le Belge Ludwig Print, Les mystères du verre, et le mystique de Providence accompagne le jeune homme afin de déchiffrer le livre. Et en lisant un extrait à voix haute, le mystique de Providence, donc Lovecraft, se fait dévorer par un vampire des étoiles. Et le vampire des étoiles étant le titre de la nouvelle.
Évidemment, Lovecraft se vengera en tuant à son tour Robert en 1936 dans la nouvelle « Celui qui hantait les ténèbres ».
Ouais, mais un an plus tard, en 1937, Lovecraft meurt vraiment à Providence d'un cancer de l'intestin. Il pensait être rongé de l'intérieur, croyant que le mal venait du dehors. Et c'est peut-être pour ça que Robert Bloch a arrêté de tuer les gens qu'il aimait dans ses nouvelles en s'inspirant plutôt de vrais tueurs en série. Et en 1957, Robert Bloch entend parler à la radio de Ed Gein, le boucher de Plainfield, un tueur en série et voleur de cadavres qui vient d'être arrêté pour le meurtre de deux jeunes femmes. Et la police a découvert chez lui les têtes de ses victimes qu'il avait conservées, ainsi que de nombreux objets fabriqués à partir de peau humaine et de restes de cadavres.
Voilà, Robert Gein qui va faire, Ed Gein qui va faire vraiment l'histoire. Hein, c'est probablement le silence des agneaux, c'est notamment inspiré par lui. Robert Bloch s'inspire de cette histoire en atténuant la violence des actes du tueur afin d'éviter la censure et écrit en 1959 Psycho.
Alors l'histoire de Marion Crane qui dérobe 40 000 dollars à son patron pour s'enfuir et rejoindre son amant Sam. La pluie et la nuit l'obligent à faire halte dans un motel isolé et Norman Bates, le gérant, le tueur, l'accueille. Norman Bates, c'est un jeu de mots pour signifier que ce personnage n'est ni homme ni femme. Nor, c'est ni man, donc ni homme. Et qu'il est lui-même l'appât. Bête, donc ça fait Norman Bates. La jeune femme, prise par la culpabilité de son vol, décide de prendre une douche.
Une douche célèbre. Musique de Bernard Herrmann.
Exactement. Mon père.
Il est con.
Alors, le livre suscite la polémique dès sa sortie. On reproche à Bloch d'utiliser un fait divers qui vient de traumatiser les États-Unis.
Ouais, en revanche, le texte fascine immédiatement Alfred Hitchcock.
Alors, le réalisateur achète les droits pour la modique somme de 9 500 $. Il aurait demandé à ses assistants d'acheter le plus de copies afin que les gens ne connaissent pas la fin de l'histoire. Par crainte de la censure, la Paramount prend ses distances avec le projet. Hitchcock décide donc de produire le film avec un budget et un temps de tournage très réduit. Hein, 30 jours de tournage, dont 7 pour la scène de la douche qui compte 78 plans. Scène mythique, pimentée par la bande-son composée par Bernard Herrmann. Voilà. Donc à sa sortie, la critique est très mauvaise, mais le succès public est énorme. Et les critiques reviendront vite sur leur jugement. Le film, il a coûté 800 000 dollars et il en a rapporté 40 millions. Mais pas grand-chose à Robert Bloch qui, sous les jeux d'influence du monde hollywoodien, avait vite été mis à l'écart de l'adaptation de son roman pour le cinéma au profit d'un jeune auteur, Joseph Stefano. Pendant longtemps, Hitchcock se gardait bien de mettre en lumière l'identité de Robert Bloch. Hitchcock reconnaîtra finalement la qualité du roman et aurait écrit à Bloch une note « Je n'ai rien changé à Psychose », note conservée dans le portefeuille de l'auteur. Robert Bloch finira par écrire des scénarios et notamment 17 épisodes pour la série Alfred Hitchcock présente. Et comme Lovecraft, il fut désireux d'apporter son aide aux jeunes écrivains, dont un certain Stephen King. En revanche, ce dernier n'entreprit jamais d'assassiner Robert Bloch dans l'un de ses romans.
Ah ouais, il a un peu écollé Stephen King après
son amitié avec Lovecraft. Plein Bradbury aussi.
Il y a plein d'auteurs très connus.
Génial, quel personnage, hein, c'est Robert Bloch tout à l'heure. Ouais. Donc, auteur de Psycho. Merci, c'était passionnant, Nicolas Herrmann. Merci beaucoup.
11h30, 13h.
Entrez sans frapper sur la première.
Notre invitée est Caroline de Mulder. Bonjour Caroline.
Bonjour Jérôme.
Bienvenue dans ce studio. Vous êtes autrice belge. On vous doit notamment depuis un peu plus de 10 ans, on va dire. Ego Tango, c'était en 2010. Nous les bêtes traquées, Bye Bye Elvis, on vous avait reçu pour ce livre. Calcaire, Manger Bambi également. Et là, vous publiez chez Gallimard, La Pouponnière d'Himmler. Alors, c'est quoi La Pouponnière d'Himmler? C'est ces fameux Lebensborn. Alors, je rappelle, hein, parmi les idées étranges du nazisme, il y avait évidemment ces fameux Lebensborn qui étaient des maternités qui étaient patronnées par le Reichsführer SS Heinrich Himmler. C'est créé en 1935, donc c'est des gens qui avaient des idées assez tôt hein, sur leur projet de société. Et c'était quoi? C'était l'idée d'un tri génétique pour arriver à la race aryenne pure pour l'Empire de Milan, à savoir créer des combattants et un peuple pur de sang. C'était la folie nazie, évidemment, l'époque. Et donc, 1935, hein, tout de même, il faut savoir qu'il y a eu un Lebensborn ici, en Belgique, près de Liège. On va d'ailleurs en parler. Et vous, vous, vous avez décidé de plonger votre roman, bah justement, dans un des Lebensborn, Bourne, et pas n'importe lequel, en l'occurrence, le premier à avoir été créé. Et dans ce Lebensborn, on va commencer le roman en 1944. La guerre va tout doucement se terminer. La guerre arrive là. Les Américains, d'un côté en tout cas, arrivent et on sent la menace pointée sur le projet nazi qu'ils vont pourtant essayer de tenir jusqu'au bout. Et vous allez le faire à travers trois personnages. Il y a Renée, tout d'abord. Renée, elle est française. Elle a couché avec un Allemand. Elle est enceinte et elle se retrouve dans ce Lebensborn de Bavière pour aller accoucher, puisque comme le père est allemand, évidemment, c'est toujours intéressant. L'autre personnage, c'est Helga. Helga, c'est une infirmière, on va dire, vous me dites si je me trompe, qui encadre, elle est allemande, bien évidemment, qui encadre auprès du grand patron ce fameux Lebensborn. Et elle, c'est un personnage hyper intéressant parce que on se dit, est-ce qu'elle est la victime totale d'une propagande ou c'est encore une femme à qui il reste du libre arbitre? Et vous allez jouer entre les lettres officielles qu'elle écrit et son journal et jouer un petit peu le cerveau de cette femme, pas encore totalement lobotomisée et qui est un très très beau personnage. Et puis il y a Marek dont on parlera, qui est peut-être le signe d'espoir finalement après l'horreur de votre roman. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Caroline, de situer votre roman entre ces murs-là?
Alors, le Heim Hochland, comme vous dites, c'est la toute première maternité nazie. C'est aussi la dernière. Mmh. Donc, c'est la maternité où vont se réfugier toutes les femmes et les enfants des autres Lebensborn qui sont évacués les uns après les autres à mesure que les Alliés avancent et que le front allemand recule. Mmh. Et donc, ça permet de voir, à ce moment fatidique de 1944, ça permet de voir en fait toutes les certitudes qui se mettent à vaciller. Mmh. Également à l'intérieur de ce Lebensborn, à travers le personnage d'Helga, elle va commencer à hésiter et les différents personnages vont d'ailleurs se retrouver confrontés à cette question, que vont-ils devenir une fois que les Alliés avancent?
Bien sûr. Voilà. Mais pourquoi vous avez décidé d'écrire un roman dans le cadre et ces fameuses maternités de création, parce que c'est purement ça, de la race aryenne?
Alors, on a beaucoup parlé et beaucoup écrit en fiction sur les camps de la mort, mais très peu sur ce qui en était l'envers, c'est-à-dire des camps de la vie, mm-hmm. d'ailleurs tout à fait mortifères, mais des camps de la vie tout de même, parce qu'il s'agissait de faire naître un maximum d'enfants. Ça permet de voir aussi que l'idée était moins de supprimer, ou pas seulement de supprimer certaines populations indésirables, mais surtout de remplacer les indésirables par des désirables. Et ce que je voulais faire aussi, c'était examiner cette histoire, cette Deuxième Guerre mondiale, mais du point de vue des femmes. Mmh. Et puis pas du point de vue de n'importe quelle femme, puisque ce sont des femmes qui, par circonstance, en partie par choix, se sont retrouvées du mauvais côté. Mmh.
Voilà, c'est ce qui est fascinant évidemment, c'est de voir l'humanité de ces femmes qui se sont retrouvées par circonstance ou par choix du mauvais côté de l'histoire. Gorian.
Cette pouponnière, Caroline, que vous décrivez dans votre roman, elle a vraiment existé. On croise des personnages qui ont vraiment existé, comme Himmler et un petit garçon, Jürgen, qui est apparemment basé sur un personnage réel. Est-ce qu'il a été facile de dénicher de la documentation sur toutes ces histoires? Parce que vous le décrivez dans votre roman, à la fin de la guerre, on brûle les archives. Qu'est-ce que vous avez pu retrouver, vous, qui parle de cette histoire des maternités nazies?
Alors, Dieu merci, les Allemands n'ont pas réussi à tout détruire, malgré cette à la fin, quand les Alliés sont à quelques jours du Lebensborn, effectivement, ils essayent de détruire un maximum de documents, ce qui va aussi laisser ces enfants finalement sans racines, sans traces de leurs racines. Mmh. Beaucoup de ces enfants ne savent pas d'où ils viennent, parce qu'à côté des enfants qui naissaient dans ces Lebensborn, il y avait aussi tous les enfants enlevés.
On en parlera.
Pour être germanisés, donc enlevés et germanisés de force dans ces pouponnières. Alors oui, c'était facile de trouver de la documentation, il y en a beaucoup. Mmh. Il y a beaucoup d'ouvrages de référence, la plupart en allemand et non traduits. Et puis il reste quand même des archives à Harrelson. Donc effectivement, tous ces documents que les nazis n'ont pas réussi à détruire.
Vous les avez vus, ces archives, Caroline?
Oui, parce que tout, en plus, tout est quasiment numérisé. Donc oui, j'ai tout, j'ai pu consulter ça. C'est très impressionnant. Il y a des lettres d'Himmler, Homer, au docteur Ebner.
Qui disent quoi? Qu'est-ce qu'il dit Himmler au docteur Ebner? Donc on rappelle que Heinrich Himmler, qui est le Reichsführer SS, c'est l'homme de la Gestapo, hein, Himmler finalement, c'est lui aussi le père des Lebensborn dès 1935. Et le docteur, c'est aussi hein, quelqu'un qui est très important dans votre roman, hein, qui est le chef de la clinique en fait, hein, qui est le chef de la maternité. Que disent les lettres d'Himmler au patron de la clinique, au patron de la maternité?
Il s'agissait principalement, pas seulement, mais principalement de consignes, donc sur le fait effectivement que les femmes, que les Allemandes ne doivent pas se maquiller parce que la femme allemande n'a pas besoin de maquillage, des instructions aussi sur les menus, sur ce qu'il fallait manger. Himmler, qui avait des problèmes d'estomac assez, assez graves, était très attentif à ce que les femmes mangeaient, devaient manger, et leurs enfants. Donc oui, il se préoccupait beaucoup, beaucoup de ces Lebensborn. Et c'est d'ailleurs très, très amusant quand on regarde un peu dans les archives. On a Himmler qui est en visite dans ces Lebensborn, et puis de l'autre côté on le voit traverser c'est les camps de la mort avec le visage fermé, sans expression. C'est le contraste est très très impressionnant, et c'est ça aussi qui m'a donné envie d'écrire sur ce sujet-là. Maintenant, pour moi, la vraie difficulté, c'était moins de consulter et de lire toute cette documentation, tous ces ouvrages de référence. C'était plutôt de réussir ensuite à me sortir de la documentation pour entrer dans le romanesque. Parce que la réalité, au fond, elle est tellement impressionnante, tellement frappante, qu'il fallait trouver une manière d'entrer dans le romanesque qui soit à la hauteur de la réalité.
Bien sûr.
Et donc, évidemment, j'y suis rentrée par le biais des personnages principaux, qui, même s'ils sont effectivement inspirés de certains témoignages, sont quand même des personnages fictionnels.
Et on va parler de René, de Helga et des autres Gorian.
Oui, et on parlait aussi des enfants. Vous parliez du fait que c'était des lieux de vie au milieu de lieux de mort, parce que finalement Dachau est pas très loin, hein, je prononce peut-être mal,
mais
Dachau est pas très loin, donc on a la vie dans les maternités. Mais il n'y a pas que la vie, parce que Jérôme l'a dit, il y a une sélection des enfants, donc on essaye d'élever de bons futurs soldats parfaits allemands, mais par contre, ceux qui ne sont pas à la hauteur, on les élimine.
Oui, absolument. Et donc, il y a effectivement le personnage de ce tout petit
Jürgen,
garçon.
Il s'appelle Jürgen. Hein.
Jürgen, et c'est son vrai prénom.
Il a vraiment existé.
Il a vraiment existé. Les documents, la petite carte postale qui a été envoyée au Lebensborn indiquant sa mort. Tout ça, voilà, je n'ai rien inventé de tout ça. Et oui, c'est aussi, ce livre est aussi un peu un hommage à ces enfants qui ont été supprimés, euthanasiés. Et ensuite, du point de vue du roman, c'est un enfant qui joue un rôle important, puisque c'est à partir de sa mort que Helga, les convictions d'Helga vont se mettre à vaciller. Elle va, sa conscience va finalement quand même se réveiller malgré l'uniforme qu'elle porte, hein, parce qu'elle porte un uniforme. Quand on porte un uniforme, on renonce quand même à une partie de sa conscience, même quand c'est un uniforme d'infirmière nazie. Ouais. Et là, effectivement, elle va se mettre à vaciller. Mmh.
Ouais. Évidemment, hein, c'est un des points essentiels de votre roman, hein, Caroline de Mulder, c'est cette scène, la maman s'appelle Frau Gertrui, elle a un enfant, hein, qui n'est pas comme les autres, qui a l'air un peu plus amorti, qui mange pas aussi bien, qui n'est pas éveillé, et là, la sélection non naturelle va évidemment s'opérer, et on va voir la manière dont le régime avait organisé la mort de ces bébés, l'assassinat, hein, de ces bébés, évidemment, qui étaient un empêchement à la race pure, vu qu'il fallait être parfait. On va voir, hein, vous diffusez carrément des tableaux, hein, des tableaux où on cotait de 1 à 5 différentes valeurs, la blondeur, le bleu des yeux, l'éveil, etc., etc. C'est, vous allez nous dire si tout cela est vrai, évidemment, et si les documents existent, j'imagine que oui. Et on va revenir sur ce petit Jürgen et sur un mot qui m'a foutu, mais vraiment, j'ai eu une angoisse en le lisant, et je ne sais pas si c'est vrai. Vous parlez de désinfection miséricordieuse. Bon, en attendant, on se retrouve tout de suite après Olivia Ruiz.
11h30, 13h.
Entrez sans frapper sur la première.
Le Heim Hochland, le premier et le dernier Lebensborn. On est en Bavière en 1944 dans le roman de notre invitée Caroline de Mulder. La pouponnière d'Himmler, ça paraît, chez Gallimard. Vous nous plongez hein, entre les murs de ces fameux Lebensborn, ces maternités nazies, hein, dont le but était tout simplement le tri pour arriver à la race aryenne la plus pure, la race des seigneurs, pour que puisse exister l'Empire de Milan. C'est comme ça, ça a existé. Il y en a même eu en Belgique, à Ouégimont, près de Liège, au château de Ouégimont, ce fut un Lebensborn, même si c'est assez peu documenté. Figurez-vous, les pays du Nord, hein, comme la Suède, par exemple, ont été extrêmement touchés par le phénomène, évidemment, parce que leur blondeur et leurs yeux bleus intéressaient beaucoup les Allemands et les SS, et je pense hein, que la chanteuse d'Abba, figurez-vous, est une enfant Lebensborn. Voilà, ça, elle en avait parlé, en tout cas. C'est absolument fascinant, cette histoire du petit Jürgen. Donc, en fait, c'est un enfant beaucoup plus endormi que les autres, dans la pouponnière. Et en fait, on va le retirer à sa mère, l'envoyer à la mort, hein, tout simplement. Il va être assassiné, rayé des cartes, parce qu'évidemment, il ne faut pas que cet enfant vive, parce qu'il est non viable pour une race aryenne pure. Est-ce que vous avez pris connaissance, Caroline de Mulder, dans l'écriture du roman, des tableaux d'études? Parce qu'évidemment, pour une organisation comme ça, ça se fait pas à pif. Il faut des critères. Et c'est extrêmement sordide, évidemment, même inimaginable. Que disaient ces tableaux d'études des enfants, et j'aurais tendance à dire aussi des mamans?
Oui, alors effectivement, pour entrer dans un de ces Lebensborn, les femmes étaient soumises à un examen méticuleux, c'est-à-dire, comme vous le dites, les critères les plus connus sont la blondeur, les yeux clairs, mais il y avait beaucoup plus que ça. Il y avait la taille assise, les proportions du visage, la longueur du nez, la forme du nez, les pommettes. Il fallait pas qu'il y ait trop de pommettes, par exemple. Il fallait que tout soit long, droit, fin. Donc il y avait, je pense, une quinzaine de critères, et effectivement noté de 1 à 5,
selon le
résultat, on était admise ou pas dans ces Lebensborn, donc qui accueillaient des femmes enceintes le plus souvent de SS.
Parce qu'en fait, les SS avaient une mission, hein. Évidemment, c'était d'être de bons SS, mais ils avaient aussi une mission d'ensemencement, figurez-vous. On leur demandait de faire minimum 4 enfants, et si plus, c'était évidemment.
Oui, ça, c'était 4 et plus si possible, ouais, mais voilà. Himmler encourageait aussi les SS à faire des enfants de manière extra-conjugale. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il envoyait les SS en vacances, par exemple en Norvège, où il y avait une dizaine de foyers Lebensborn, de manière à avoir plus de naissances. Il y avait donc cette idée de tri et d'eugénisme, mais aussi l'idée de repeupler l'Allemagne, mm-hmm. parce qu'évidemment, beaucoup les jeunes gens, les SS, les plus beaux exemplaires de la race, entre guillemets, étaient en train de se faire massacrer sur le front. Mmh. Ce qui attristait énormément Himmler. Et oui. Voilà.
Oui, évidemment. Gorion et le pâture.
Oui, et c'est l'histoire.
Ah non, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce terme qui m'a absolument terrifié? Après, je vous donne la parole, Gorion. De désinfection miséricordieuse. Est-ce que ça vient de vous? Ou est-ce que vous avez vu ça quelque part? Et par désinfection miséricordieuse, on parle de l'assassinat, hein, de l'enfant qui n'est pas comme les autres.
Alors non, je n'ai absolument rien inventé. J'ai traduit. En fait, il y avait tout un vocabulaire nazi. Qui étaient en fait des euphémismes, hein, donc des infections. Et puis, quand on était euthanasié, on n'était pas euthanasié sur les papiers administratifs. On mourait d'une infection pulmonaire. Mmh. Mais c'était un code. C'était un code. Donc oui, il y avait beaucoup d'euphémismes et je les ai repris et traduits.
Mmh. Gorion.
Il y a trois personnages dans votre roman, hein, Caroline. Il y a la jeune Française Renée, une Normande de 16 ans, hein, qui est tombée amoureuse d'un joli soldat allemand dans l'hôtel dans lequel elle travaille. Et on découvrira que l'allemand a été commandité, hein, on le disait, hein, les soldats nazis devaient faire des enfants aux, ouais, aux jeunes filles. Et elle, c'est ce qui lui arrive. Elle va être chassée par sa famille.
Tendue.
Elle va être rasée, elle va être tendue. Et c'est grâce à une adresse que lui a fournie le soldat allemand, qu'elle ne verra d'ailleurs plus jamais, qu'elle va se retrouver dans cette fraternité. Il y a Marek, qui est un Polonais, hein, qui sort de Dachau et qui va se retrouver là-bas comme prisonnier ouvrier. Il doit travailler à l'écart des infirmières et des mamans pour s'occuper du potager et construire des bâtiments. Et puis, il y a surtout Helga, cette infirmière allemande. Et c'est le personnage probablement le plus dingue parce que elle a vraiment l'impression de bien faire. Elle travaille dans une maternité pour bébés nazis et comprend, on a l'impression qu'elle est là pour faire le bien et elle va progressivement se rendre compte que sa mission n'est peut-être pas si positive que ça. C'est important de montrer ce paradoxe entre ces Allemands qui sont nazis, qui participent du système nazi, mais qui ont vraiment l'impression de bien faire les choses.
Oui, alors comme tous les auteurs qui s'intéressent à la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'il y a cette envie, cette volonté de se confronter au mal et de l'interroger. Dans mon cas, sous un angle différent, celui des femmes. Mais ce qui est particulièrement frappant, c'est que quand on regarde, qu'on lit les témoignages, on se rend compte en fait que la plupart des gens qui ont participé à ce que nous considérons maintenant comme le mal absolu, et nous sommes encore toujours hantés par cette Deuxième Guerre mondiale et ce mal absolu. On n'a jamais réussi à guérir tout à fait de cette Deuxième Guerre mondiale. En fait, ce mal absolu était perpétré non pas par des monstres, alors il y en a eu, bien évidemment, mais la plupart des gens qui ont participé à ça, c'était des gens ordinaires. C'était des gens, c'était vous et moi, d'une certaine manière. Et donc, ça nous confronte aussi à cette question. Et nous, dans des circonstances pareilles, qu'aurions-nous fait? Et alors, dans le cas d'Helga, effectivement, elle est infirmière, elle est certaine d'être, du bon côté, du côté où on soigne, du côté où on s'occupe des femmes, des enfants, des filles mères aussi, ce qui n'était pas une évidence à l'époque. Bien sûr. Donc, on recueillait, au fond, des filles il y avait évidemment des épouses de SS aussi, mais il y avait des filles mères qu'on accueillait aussi. Mmh. Donc, il y avait cette idée quand même qu'on s'occupait de tout le monde.
Bien sûr.
Le mieux possible. Ouais. Et voilà, à un moment donné, chez elle, les certitudes vacillent. Mais il y a d'autres personnes et personnages pour qui il n'y a jamais cette remise en question. Le docteur Ebner, qui est le responsable de tous les Lebensborn, le responsable médical, il est médecin. Le docteur Ebner, jusqu'à la fin, 10 ans après la guerre, 20 ans après la guerre, jamais il y a cette remise en question. D'ailleurs, ce que je lui reprends une expression qu'il a vraiment utilisée, « Wir haben eine weiße Weste », nous avons la veste blanche. Nous sommes purs. Et donc, ça, c'est fascinant aussi. Donc, même après, certains sont restés persuadés d'avoir bien fait.
Et c'est d'ailleurs pour ça, par rapport à ça, ils se retranchent tous vers quelque chose que Robert Merle a très très bien écrit dans La mort est mon métier. Et d'ailleurs, vous le citez au début du roman, « Je n'ai pas à m'occuper de ce que je pense ». Mon devoir est d'obéir. À un moment, Helga le dit aussi, mon devoir est de soigner et d'obéir, dit-elle. Et puis, évidemment, les choses vont vaciller. Robert Merle, qui a écrit La mort est mon métier, qui est une espèce de livre sur Rodolphe Hess, dans les camps de la mort, en l'occurrence. Soigner et obéir, mais Helga ira bien plus loin. On continue de raconter cela avec Caroline Demulder et son roman La pouponnière d'Himmler.
De 11h30 à 13h,
entrez sans frapper sur la première.
L'objectif des Lebensborn était de permettre à des femmes mariées ou célibataires, vous l'avez dit, elles étaient parfois mariées à des SS, mais célibataires, filles mères, etc., de race pure, de donner naissance à des enfants dont les pères appartenaient à l'élite raciale, soi-disant, évidemment, dans la Seconde Guerre mondiale, projet lancé par Heinrich Himmler en 1935, jusqu'au dernier Lebensborn. C'est là que ça se passe, le roman de Caroline Demulder, Heim Auckland, c'est en Bavière, et le roman se déroule sur quelques semaines, quelques mois, en 1944, finalement. On parle des mères, c'est effectivement très important. Elles étaient femmes, elles étaient célibataires, elles étaient, piégées, comme René, dans votre roman, par un militaire allemand dont la mission était de faire des enfants de race pure. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que des femmes enceintes. Il y avait aussi des arrivages de camions avec des petites cages en osier. Et dans cette cage en osier, il y avait des nouveau-nés. Donc, il y avait un vol organisé, un pillage organisé d'enfants blonds, en l'occurrence, hein, pour faire court, Caroline. Est-ce qu'on sait comment ça s'organisait, où les faits se sont déroulés et combien d'enfants ont été volés à leurs parents?
Oui, alors les Lebensborn, c'est effectivement 20 000 naissances et c'est 200 000 enfants voilà. Qui ont été kidnappés. Et ça répondait de nouveau à une instruction d'Himmler qui était, eh bien, nous allons prendre tout le bon sang là où il se trouve. Hein, Himmler qui était dévasté par le fait que tous les bons éléments étaient en fait en train de se faire tuer. Donc 200 000 enfants ont été volés, beaucoup d'enfants polonais, pas seulement, mais on les prenait partout où on pouvait les prendre. Mmh. On les arrachait littéralement des bras de leur mère. Et ensuite, ceux qui étaient considérés valables, ceux qui faisaient bonne impression, ceux qui étaient en catégorie 1 et parfois 2, hein, après il y avait les catégories 3 et 4, mmh. Ils étaient élevés dans des Lebensborn, certains Lebensborn étant consacrés uniquement à l'élevage, entre guillemets, des enfants.
À la germanisation, hein.
Pour les germaniser. Et on leur donnait évidemment un nom allemand, on changeait le nom. Et c'est,
oui, c'est
il y a
une cérémonie
aussi.
Du baptême que vous décrivez.
Cérémonie du nom. Hein.
La cérémonie du nom, ouais. Ça c'était pour les enfants qui naissaient, ouais. qui naissaient à l'intérieur de ces REM. Et donc les parrains étaient des SS. Mmh. Tout ça était patronné par Himmler.
Ouais, voilà, hein, c'est la cérémonie du nom, ça s'appelle le Namensgebung. Et en fait c'était une cérémonie qui intégrait le bébé dans la grande communauté SS. Gorion.
Moi, j'aimerais, Caroline, qu'on parle un peu de votre style d'écriture, parce que je l'ai trouvé particulièrement sobre. Hein, on est à l'indicatif du présent, des phrases assez courtes. Est-ce que vous avez voulu compenser la noirceur, la lourdeur du thème par un style d'écriture plus, j'irais, moins expérimental que ce dont vous nous avez donné l'habitude jusqu'ici?
Oui, alors ça, c'était aussi un grand défi de ce texte, c'était de trouver l'écriture juste. Alors évidemment, on n'écrit pas la pouponnière d'Himmler comme on écrit Manger Bambi.
Non.
Manger Bambi, je me suis vraiment amusée. Il y avait un côté vraiment jubilatoire dans l'écriture. Ça n'est évidemment pas possible avec un thème, non. Avec un sujet pareil. Et donc, il y a une certaine sobriété qui s'est imposée à moi. Avec cette idée, évidemment, que je voulais bien que ça soit sobre, mais non pas que ça soit plat. Donc pour moi, c'était vraiment... Voilà, c'était un vrai travail de chercher ça, de trouver ça, de trouver le ton juste et de quand même réussir à écrire quelque chose dont j'étais contente du point de vue stylistique. Mmh. Mais effectivement, ça m'a sortie de ma zone de confort à tout point de vue.
Est-ce que vous avez appris en faisant ce livre? Parce que faire un livre, en fait, c'est s'arrêter sur certaines questions que l'on se pose. On ne va pas positionner un roman dans un Lebensborn par hasard, en fait. Il y a toujours des raisons qui nous mènent à écrire ce qu'on écrit. Quelles étaient les raisons pour lesquelles vous y êtes allé? Et avec quelle information ou quel apprentissage vous en sortez, Caroline?
Alors, je n'ai pas vraiment de message dans ce texte, mais effectivement, j'ai des questions auxquelles, malheureusement, je n'ai pas vraiment réussi à trouver de réponse, puisque les questions que je me pose, c'est le mal, le bien, c'est notre humanité. À quel moment basculons-nous dans le mal? Comment se fait-il que nous pouvons entrer dans le mal sans en avoir conscience? Je dirais que ça m'a permis de formaliser ou d'exprimer certaines questions, mais hélas, pas d'y répondre.
Vous nous avez dit, Caroline, que l'idée aussi du roman, c'était de raconter la guerre vue par les femmes, hein, puisqu'il y a évidemment René, puis une infirmière, mais il y a aussi quand même un personnage masculin, hein, Marek, ce Polonais qui est prisonnier, qui travaille dans le camp. Quel était l'intérêt d'avoir ce personnage masculin dans votre histoire de la guerre féminine?
Oui, alors Marek, c'est un personnage que j'ai beaucoup retravaillé et beaucoup étoffé dans une deuxième version de mon texte. Au départ, c'était vraiment une sorte de gynécée. Bon, ça l'est encore toujours d'une certaine manière. Mais Marek, c'est le personnage qui me permet de faire entrer la guerre dans le
Lebensborn. Hein.
Ça m'a permis d'exprimer un contrepoint, de faire quand même planer l'ombre des camps de la mort, des camps de travail, sur ces camps de la vie. Je pense que ce point de vue masculin, ce contrepoint de vue masculin, m'a permis quand même d'enrichir, d'enrichir le texte.
Et vous verrez que c'est un personnage clé sur la fin du livre, mais évidemment, on ne vous le dira
pas. Non.
Caroline de Mulder, merci d'avoir été notre invitée, Caroline.
Merci, Jérôme.
La pouponnière d'Himmler, c'est votre nouveau roman et ça paraît chez Gallimard. Merci, Caroline.
Entrez sans frapper sur la première.
11h30, 13h.
Le coup de cœur littérature étrangère de Gorian Delpature, le couteau de Salman Rushdie.
Et oui, aujourd'hui, je vous emmène aux États-Unis, à Chautauqua, dans l'État de New York, sur la scène d'un amphithéâtre, le matin du 12 août 2022. C'est là et à ce moment que l'écrivain américain Salman Rushdie a été poignardé une quinzaine de fois devant 1000 personnes. Il a heureusement survécu et il a publié il y a quelques jours, en anglais et en français, son tout premier livre écrit après cette tentative d'assassinat. C'est Knife, publié en français chez Gallimard sous le titre de Le couteau, réflexion suite à une tentative d'assassinat. Salman Rushdie, il est né en Inde, à Bombay, le 19 juin 1947. Il a donc 76 ans aujourd'hui. Il vit aux États-Unis depuis l'an 2000. Il est même devenu citoyen américain en 2016. C'est un écrivain remarquable, Salman Rushdie, un conteur hors pair, un indien d'origine qui écrit en anglais, un athée qui raconte des histoires imprégnées de pop culture et de fantastique. On peut parler de réalisme magique pour qualifier son œuvre romanesque. Et évidemment, Salman Rushdie, c'est l'écrivain condamné à mort par l'Iranien Khomeini pour avoir écrit « Les versets sataniques », un livre jugé irrévérencieux envers Mahomet par des milliers d'islamistes dans le monde. Des islamistes qui n'ont évidemment même pas lu ce roman. C'était en 1989. Depuis cette fatwa, cette condamnation, Salman Rushdie a vécu sous protection judiciaire en Angleterre. Oui, c'était pas une blague, cette condamnation délirante. Le traducteur japonais de Salman Rushdie a été assassiné en 1991. Son traducteur italien a été poignardé. On a tiré sur son éditeur norvégien. 37 personnes sont mortes lors d'un incendie dans un hôtel turc qui visait son traducteur turc. Deux religieux qui avaient dénoncé la fatwa ont été tués à Bruxelles. Et je ne parle pas des attentats contre les librairies qui vendaient le livre. Des attaques lamentables menées par des islamistes intégristes de véritables demeurées à chaque fois. Mais Salman a survécu. Il a continué à écrire et après 11 ans de protection rapprochée en Angleterre, il est parti s'installer aux USA en tentant de reprendre une vie normale. Le temps a passé et il pensait que cette histoire était derrière lui. Il n'imaginait pas qu'elle allait le rattraper ce matin du 12 août 2022, 33 ans après la fatwa lancée par Khomeini. Le couteau, c'est donc un récit, c'est un essai de moins de 300 pages où Salman Rushdie raconte ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, il montait donc sur la scène de l'amphithéâtre de Chautauqua pour parler, ironie de l'histoire, de l'importance de préserver la sécurité des écrivains. Ah. Et là, ce jour-là, il n'y a pas de sécurité assurée pour cette conférence devant 1000 personnes. Et Salman, 75 ans, voit un jeune homme qui jaillit du public et qui fonce sur lui. Salman se lève, se tourne vers lui. Salman lève la main gauche pour se protéger et l'agresseur y plonge un couteau. Puis Salman reçoit de nombreux autres coups, au cou, à la poitrine, à l'œil, partout. Il sent que ses jambes le lâchent et il s'écroule. C'est le récit terrifiant qui ouvre le texte de Salman Rushdie. L'écrivain va nous raconter l'attentat dont il a été victime ce matin-là. Il va nous raconter ce dont il se souvient de l'attaque, des 27 secondes d'intimité effrayante avec cet homme qui lui plonge plusieurs fois un couteau dans le corps. Il va raconter la réaction des gens autour de lui, comme ce pompier à la retraite qui va garder son pouce contre sa blessure au cou, la plus profonde, jusqu'à ce qu'on évacue Salman en hélicoptère. Salman Rushdie se rappelle ensuite son transport à l'hôpital, au service de traumatologie de Hamot, où il va passer 3 semaines. Il va nous raconter les opérations, ses 18 jours en soins intensifs, la perte de son œil droit, dont le nerf optique a été sectionné. Il va nous raconter ensuite son retour à New York, dans un autre hôpital, pour sa rééducation pendant 3 semaines, et puis son retour progressif à la vie. Oui, parce que ce livre, qui aurait pu être un livre sur la mort, est un livre sur la vie de Salman Rushdie. Salman Rushdie qui était un homme heureux avant ses coups de couteau. Il s'apprêtait à publier un nouveau roman, La Cité de la Victoire, dont je vous avais parlé ici même. Et surtout, il s'était marié quelques mois plus tôt avec la poétesse afro-américaine Eliza Griffith. Salman va nous raconter leur première rencontre, assez drôle, lors d'un événement littéraire à New York où il s'est pris une porte vitrée en pleine tête et qu'il a failli tomber dans les pommes devant elle. Ça commençait bien. Il va nous raconter ensuite le soutien de sa femme, de ses fils et de sa sœur lors de l'attaque terroriste dont il a été victime. Et il va essayer de la comprendre aussi, cette attaque. Attention, Il ne pardonne rien à son agresseur. Non. Il l'appelle un clown stupide et qui a eu de la chance. Un jeune homme stupide et enragé qui n'avait même pas la moindre idée de comment tuer quelqu'un à coups de couteau. Salman ne va même pas donner son nom dans le livre. Il l'appelle le A. A comme la première lettre d'âne, parce que c'est sous la forme d'un âne que Salman Rushdie imagine cet imbécile de 24 ans qui s'est attaqué à lui après avoir lu deux pages de versets sataniques, après avoir regardé deux ou trois vidéos de l'écrivain sur YouTube où Salman Rushdie avait l'air hypocrite, et évidemment après s'être laissé influencer par des vidéos d'un imam intégriste. Salman ne nomme donc pas son agresseur, qui n'a pas encore été jugé d'ailleurs, et que Salman n'a pas souhaité rencontrer en vrai, mais le romancier va imaginer quatre rencontres avec ce jeune homme, quatre séances de questions-réponses qu'on trouve dans le livre et qui illustrent le gouffre qui sépare l'écrivain athée et le terroriste islamiste. Bien sûr, ce livre, Salman Rushdie aurait préféré ne jamais devoir l'écrire. Mais c'est un livre qui lui permet de reprendre le contrôle des événements après avoir été la victime du couteau de son agresseur. C'est un livre qui célèbre la vie qu'il a gardée, un livre qu'il écrit à la première personne, ce qui n'était pas le cas de son autobiographie précédente, Joseph Anton. C'est un livre qui célèbre la vie, les gens qu'il aime, la littérature, un livre qui critique les imbéciles et la religion, cette forme médiévale de l'irrationalité, et ce monde où respect de la religion est devenu un mot de passe signifiant la peur de la religion. Les religions, comme toutes les autres idées, méritent la critique, la satire et même notre irrévérence intrépide. C'est ce que Salman Rushdie avait écrit après les attaques de Charlie Hebdo et qu'il répète dans Le Couteau, et c'est toujours d'actualité. Célébrer la vie de Salman Rushdie et ce texte intelligent dans un monde souvent stupide, il faut lire Le Couteau, réflexion suite à une tentative d'assassinat, traduit de l'anglais par Gérard Medal. C'est chez Gallimard.
Merci Gorian Delpature pour ce récit. Donc c'est dans cette très très belle collection que cela s'inscrit, Gallimard du monde entier. C'est Gallimard qui traduit des textes essentiels du roman, beaucoup aussi ici cet essai de Salman Rushdie, Le Couteau, réflexion suite à une tentative d'assassinat. C'est donc chez Gallimard. Merci Gorian, merci Nicolas Jérôme. Hermant.
Merci à vous.
Merci beaucoup à Eve Jans, merci beaucoup à Marie-Agnès Baupin. Dans quelques instants, vous allez retrouver Un jour dans l'histoire avec Laurent Dehaussé. Ensuite, il y aura notre amie Valentine avec Multitube. Ensuite, L'Heure H avec Jean-Louis Lahaye. Et puis, Walid et sa bande pour Salut les copions. C'est le programme de la première pour le restant de cette journée. Je remercie Evienne, je remercie Marie-Agnès Baupin. Je remercie vous toutes et toutes de nous être fidèles. Le journal, c'est Marie-Laure de Kerckhove.
La première.
L'esprit clair. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.